Nicolas et Amélie. Merci également à toute la team Campus, Alice, Augustin, Mathilde, Laurie et Adèle pour évidemment leur engagement. Encore une fois, nous on se retrouve dès demain à bord du sous-marin sur les ondes du 103 FM et à l'écoute de Topette sur Radio G. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Il est 19h sur le 100.5 de Radio G et l'heure que vous voulez. Si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr, c'est l'heure de la case de Seb. Au programme ce soir, de la BD, du comics, du manga, de la couleur noire, des comics, pas comics, et des comics français. Et puis, go pour le générique, si j'y arrive.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, nous sommes ensemble pour une heure et j'espère qu'on va passer un bon moment. J'ai le plaisir d'être accompagné ce soir par deux collègues de travail qui sont juste venus voir comment ça se passait à la radio. Salut les gars. Tu voulais dire un petit mot au micro ?
Pas du tout.
Salut.
Salut tout le monde.
Merci à eux d'être présents. Et dans quelques instants, nous aurons peut-être l'immense honneur d'avoir Boris et Tony et Murio, Boris Beuzelin. Bienvenue.
Il n'a pas le micro encore.
Il n'a pas le micro
encore,
Boris.
Je peux dire bonsoir. Bonsoir.
Hop. Eh bien, bienvenue. On ne va peut-être pas attaquer direct avec Parieur. On va vous laisser... le temps de reprendre un peu votre souffle, surtout que vous rentrez d'Angoulême.
Ouais, bah on est rentré hier soir, on est rentré, il était quoi, 22h, il était pas super tard, mais après 3 jours de festival, ça scie un peu les pattes.
Ça use un peu.
Ouais.
Combien de dédicaces?
On n'a pas spécialement compté, mais c'était un super accueil. Alors cette année particulièrement, si tu veux, il y avait vraiment une énorme affluence en comparaison aux autres années. Moi, ça fait plusieurs années, comme Bob, qu'on y va à Angoulême, et c'est la première fois que je crois qu'on voyait une telle foule, surtout dans la bulle de mon monde, là où on était, et beaucoup de dédicaces, mais l'heure de là, elle est comptée, non ? Je sais pas.
Beaucoup.
Chiffre au hasard.
Beaucoup.
Ouais. Non, il y avait beaucoup de monde, ouais, en effet, une grosse affluence, nous, on a pu le remarquer de nous-mêmes, mais au dire des autres stands.
Ouais, des autres éditeurs, et puis même le festival, je pense qu'ils se sont un peu laissés déborder, tu vois, parce qu'il y avait quasiment une heure à une heure et demie d'attente pour chaque expo, ce qui n'arrive jamais habituellement. Donc une très bonne année. Après, c'est sans doute dû au fait que depuis 2 ans, il n'y avait pas eu de festival pour proprement parler, donc les gens avaient besoin de revenir aux affaires.
C'est ça, les gens, ça leur manquait un petit peu de venir.
Bah écoute, oui, visiblement, je suppose, et tant mieux, quelque part pour nous.
Bah tant mieux. Un petit retour sur les fauves qui ont été décernés. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que les fauves, c'est un petit peu les Oscars de la BD, on peut le dire comme ça.
Ouais, c'est bien, ouais.
Alors, il y a eu le... Tu les as suivis ou...
Ah bah, par la force des choses, ouais. Puis bah, du coup, c'était au cœur des débats avec Boris et Dom dans la voiture hier soir au retour.
Il y a des gens qui ne méritaient pas?
Non, je me permettrais jamais de dire ça.
Non,
on serait gonflé de dire ça. Non, après c'était plus discuter des choix, notamment du Fauve d'Or. Je pense que peut-être tu vas vouloir parler de ça en particulier, où on s'interroge en fait sur la mutation qui est en train de connaître la bande dessinée. Et Alors je sais pas si c'est lui, mais j'ai vu des photos d'un gars qui imprimait
oui.
avec une.
Oui, c'est lui. Oui.
Ouais, c'est lui.
Ouais, ouais, donc en fait, il va au bout de son idée. Concept. Il est très cohérent. Oui. Riyad Satouf.
Bah Riyad Satouf, oui, non là pour le.
Non,
coup,
non, le dessinateur.
Non, non, on parle de la couleur des choses.
Dédicace avec une machine qui est un robot qui dessine voilà.
Qui est plus un graphiste un qu'un dessinateur finalement. C'est ça en fait qui interroge vachement. C'était que quand tu regardes le bouquin. Je ne vais pas parler de la qualité parce que je ne l'ai pas lu. Donc,
et non plus.
Complètement con de parler d'un truc qu'on n'a pas lu. Mais ça se passe de. On est dans un concept de simplification ultime, si tu veux. Donc ça relève un petit peu de l'expérimental. Après, voilà, c'est un choix qui a été fait avec un jury. On n'a pas à débattre de ça, finalement. Enfin, en tout cas, à spécialement. Mais ça interroge vraiment sur pour l'instant, la bande dessinée qui est quand même essentiellement. Un art figuratif. Là, pour le coup, on va vers de la simplification. Et lui, vraiment jusqu'au bout du truc. Donc, par contre, alors, c'est marrant parce que autant ce truc-là, je ne sais pas encore, je ne suis pas convaincu, mais il faut que je le lise avant de vraiment donner mon avis. Ça me fait marrer qu'il fasse ses dédicaces avec une imprimante. Là, j'avoue que.
Ah bah, oui, c'est...
il va au bout de son concept. Ouais. Du coup, peut-être.
Après, effectivement... bon, là, évidemment, il y a la mise en lumière du fait qu'il a eu le prix du meilleur album. De la simplification de l'abstraction en bande dessinée, mais c'est pas le premier à avoir fait ça, loin de là, hein. Là évidemment c'est mis en lumière et c'est mis au voilà au,
c'est sûr qu'on c'est mis croirait, au... on croirait se promener sur Google Maps mais il y a 10 ans.
Ouais, ouais. Après on en a discuté avec Tony au téléphone tout à l'heure, ça nous interroge beaucoup évidemment. Mais moi non plus, je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas porter d'avis là-dessus, en tout cas de pertinence. Mais en regardant les quelques pages que j'ai vues sur Internet, bon, bah, je me suis posé la question, est-ce que c'est de la bande dessinée? Alors du coup, pour poser cette question-là, il faut poser la question, qu'est-ce que de la bande dessinée? Donc,
un art séquentiel, alors, après
Ça raconte une histoire, apparemment oui. il y a des personnages qui parlent avec des bulles. Là, les bulles ne sont pas figurées, mais ce n'est pas le premier non plus à avoir fait ça. Oui, là, ça coche. Bon, il n'y a pas de cases, mais ce n'est pas le premier non plus à s'être affranchi de mettre des dessins dans des cases. A priori, on peut le classer dans. On peut le classer dans le.
De toute façon, le choix a été fait. Hein.
À partir du moment où il y a une narration graphique, on peut le classer dans la bande dessinée, mais on pourrait le classer aussi en livre jeunesse, peut-être. Je ne sais pas si c'est destiné aux enfants. Apparemment, ça raconte l'histoire d'un adolescent qui est mal dans sa peau. Mais ça pourrait être classé aussi en objet d'art graphique, ça pourrait être classé peut-être dans plusieurs catégories. Hein. Ouais. Là, il est présenté il est édité par un éditeur de bande dessinée, donc il est classé donc dans la catégorie bande dessinée.
C'est édité par Saïla.
Ouais, c'est édité par Saïla, ouais. Qu'on raflait beaucoup de prix.
Ouais, c'est une machine à prix, cette maison d'édition.
Après, ben, c'est comme tout, il faut lire et puis il faut se faire un avis.
Quand j'ai essayé de me pencher dessus quand même pour pouvoir en parler.
Bah ouais, moi aussi, mais tu vois, c'est par simple curiosité, en fait, le fauve d'or, enfin celui du meilleur album en l'occurrence, a au moins cet effet-là, c'est peut-être de nous intéresser à un truc au côté duquel on serait passé, que là ça interroge clairement. Et puis en plus, il a été coup de cœur de certains libraires avant même en fait d'être consacré. Donc c'est pas non plus complètement hasardeux, je pense. Donc bon, à creuser quoi.
Moi, l'interrogation est d'autant plus intéressante à partir du moment où on regarde le contexte actuel avec les IA qui sont capables de générer des images.
Ouais.
Avec les IA qui sont capables de générer des textes.
Là, ça va à l'encontre de ce que font les IA quoi. C'est ça qui est.
Oui, mais du coup, on va dessiner à l'imprimante.
Ouais, mais c'est ce qu'il fait. Et je trouve que c'est peut-être très malin. Je sais pas encore. C'est soit une arnaque. J'en sais rien. Soit du coup un truc très malin, très intelligent. On n'y est pas encore. Faut attendre. Je vais lire. Je vais me faire mon idée.
Je pense qu'il faudra que je le lise. J'essaie de le contacter, même si ça risque d'être compliqué la suite après le festival et la taille de notre radio. Hein. Mais ça pourrait être hyper intéressant d'échanger.
Ouais.
Et sur les autres prix?
Ouais, j'ai pas creusé en fait. Hein. Très honnêtement, je vais te dire, et j'en connaissais très peu, à part Riyad Satouf. Alors, du coup, effectivement, ça me paraît cohérent hein, pour Satouf. C'est pas non plus un raconteur d'histoire. En règle générale, les Grands Prix, alors ça fait quand même quelques années que ça a changé, mais jusqu'alors, ça couronnait une carrière, si tu veux. Enfin, voilà, c'était un peu comme l'Oscar d'honneur, c'était des vieux de la vieille, entre guillemets, des gens qui avaient quasiment 40 ans de dessin derrière eux et qui étaient consacrés déjà par le public. Là, Riyad Sattouf, il est consacré par le public, il est peut-être un peu jeune, entre guillemets, mais moi, ça ne me dérange pas, je trouve ça assez cohérent que Sattouf, qui est un bon raconteur d'histoire, quoi qu'on en dise, se retrouve invité d'honneur. C'est pas invité d'honneur le terme qui convient, mais je ne sais plus ce que c'est exactement.
Il sera le président du jury l'année prochaine,
oui, bien sûr. Ouais.
On va juste brosser vite fait. Il y avait Animan 2, qui est l'auteur, Anouk Ricard. Publié aux éditions Exemplaires.
J'aime bien ce qu'elle fait, moi. Mais bon, voilà, c'est purement subjectif.
Mais c'est l'air très rigolo.
Ouais, c'est super marrant ce qu'elle fait, Anouk Ricard. Elle a fait une BDQ, elle travaille dans la jeunesse, elle s'emmerde. Elle fait plein de trucs différents.
Ça rappelle d'autres carrières.
Ouais, oui, mais non, pas tout à fait de la même. On pense tous à Vivès, mais non, c'est pas du tout la même démarche.
On a Toutes les princesses meurent après minuit. J'ai perdu le nom de l'auteur.
Je ne connais pas un seul. C'est là que je vois que je vieillis, que je ne m'intéresse plus trop aux nouveautés. C'est terrible. Hein,
Quentin Zuiton aux éditions de Lombard.
Bah, très certainement, oui.
On a Les liens du sang de Shuzo Oshimi. C'est aux éditions Kiun. C'est un manga.
Ouais.
Donc, ce n'est pas courant.
Un manga était vachement à l'honneur cette année. Ouais, hein. Il y avait une expo. Ouais.
Junji Ito,
et puis une expo l'attaque des Titans qui était payante, hein, c'était pas une expo, elle était un peu en marge du festival.
Ah ouais.
Ouais, elle était sold out très vite, mais du coup c'était
c'était de la folie.
En plus, et là c'était quasiment.
Ça fait quelques années, hein, que le manga est très présent sur Angoulême
et que les auteurs se déplacent en plus. Avant, ils boudaient un peu le festival, mais maintenant ils commencent à venir un peu plus.
Et puis il y a eu un petit article du Figaro, je sais pas si vous avez vu la vidéo.
Non.
Où on s'interroge sur la déferlante manga.
Bah, c'est vrai.
J'ai l'impression que
Breaking News.
Oh, quel
c'est incroyable.
Quel Figaro
toujours à la pointe. Alors.
Il y a Fleur de Pierre en manga aussi.
Ouais.
Isashi Sakaguchi aux éditions Revival. Le prix de la révélation. On fait juste le petit tour des prix.
À noter que Comics Initiative, pour faire un peu d'auto-promo, était en fait dans la sélection pour le prix patrimoine avec Love and Rockets. Qui n'a pas eu finalement, mais ça fait quand même deux années de suite où du coup il est nominé. Il y avait Foxboy l'année dernière et puis un autre, c'était Canon, je crois, il me semble. Okay. Moi je me trompe, je sais plus.
Oui, Canon.
Et là cette année à nouveau, donc bon, jamais 203, pourquoi pas l'année prochaine à voir. Par ailleurs, ouais, non, ce serait bien, ouais.
Ouais,
ce serait pas mal.
Après, voilà, c'est pas parce que vous êtes là, vous, je pense que vous êtes convaincu que Comics Initiative c'est une super maison d'édition, mais. Leurs produits sont super.
Il ouais.
Y a une belle démarche d'éditeur dedans. Il prend des risques.
Ouais.
Et je trouve ça hyper intéressant, en fait. Donc,
nous, on ne regrette pas.
Il y a vraiment une vraie recherche, oui, de nouvelles choses. Toi, Mika, j'étais avec lui au stand de Fantagraphics.
Ah ouais.
Il est revenu avec des
cartons. Ah oui, tout un paxon de trucs.
Des cartons de bouquins. Il est toujours en recherche de nouvelles choses. Quoi.
Et il y a des choix pertinents et des choses qu'on n'a jamais sorties encore à l'heure actuelle en France. Personnellement, moi, je ne comprends pas que ça ne soit pas tombé entre les mains d'un éditeur. Et lui, il y va, en fait. Et c'est bien, parce que ça nous permet d'accéder à des choses autrement qu'en langue originale. Tout le monde n'est pas anglophone. Donc,
non, c'est clair.
C'est pas inintéressant.
Il y a plusieurs éditeurs comme ça qui ont des trucs...
De plus en plus, ouais.
Qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont pourtant très très cohérents, donc... Autant y aller. Bon, on va peut-être pas énumérer tous les prix, en fait. Parce qu'on
a
bien digressé.
Voilà ce qu'on peut dire.
Bravo à tous les gagnants. Même aux sélectionnés, je pense que simplement le fait d'être sélectionné, ouais, c'est déjà bien, une belle preuve de qualité. Oui. Et puis, il y a forcément qu'un gagnant. Mais...
Ouais. Bon, voilà. Puis la sélection, ça te permet d'être assis dans des sièges confortables pendant une heure et demie. C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. Je reviendrai peut-être juste sur un qui j'ai vu qui a été un prix et que j'ai fini de lire hier soir sans le savoir.
Ah, jeunesse.
C'est La Longue Marche des Dindes,
ouais.
de Léonie Bischoff, sur un roman de Kathleen Carr qui était publié aux éditions École des Loisirs et qui l'a adapté en BD chez Rue de Sèvres.
D'accord.
C'est une certaine logique.
Ils font l'inverse aussi, parfois, ça leur arrive.
Ouais.
Ouais. Bah, c'est notamment la série de Thomas Laboureau et de Garnier.
Oui, Alina Mandragore.
Ouais, voilà, exactement. Alina Mandragore sort maintenant en roman à l'École des Loisirs.
C'est bien ça, d'avoir deux catalogues.
Bah, ouais, c'est hyper intéressant. Enfin, pour les auteurs, en tout cas, c'est hyper intéressant.
Mais on en reparlera peut-être tout à l'heure de la Longue Marche des Dindes. C'est un vrai petit bijou.
Ok. Bon, bah, le prix n'est pas usurpé alors.
Non. Enfin, selon moi. je vous propose de faire une petite pause musicale. J'ai une thématique sur le noir. J'ai plusieurs BD en fait qui vont parler de trucs un peu sombres, un peu dark, un peu noir. Et du coup, j'ai mis en premier morceau musical Rammstein avec Angst. voilà. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur le 101.5 de Radio G. Sur le 101.5 de Radio G, vous êtes toujours dans la case de Seb. Je suis toujours en compagnie de Boris Beuzelin et Tony Muriot. On va...
C'est bien.
vous revenez tout juste d'Angoulême après trois jours.
Trois
jours de folie.
Ouais.
Comment ça s'est passé l'accueil de Paria là-bas?
Ça s'est passé que... Alors ça démarrait très fort, on est arrivé vendredi midi, enfin vendredi en début d'après-midi, Et on s'est installé et ça a démarré tout de suite d'entrée de jeu jusqu'à la fermeture. Bah, l'accueil, il est plutôt bon. Vendredi, on avait plutôt des personnes qui avaient participé au financement et qui venaient pour faire dédicacer leur album. Il y avait quelques découvertes, mais c'était beaucoup aussi des gens qui venaient donc pour avoir une dédicace sur leur album. Et puis les autres jours, c'était plutôt c'était plutôt des personnes qui découvraient, et on a vendu notamment beaucoup de Thomas. Donc ça, c'était intéressant parce que c'était des personnes qui connaissaient pas le titre et qui en feuilletant et en discutant avec nous, du coup étaient convaincus par l'acte d'achat, si on peut dire ça. Mais après, c'est difficile de se faire une idée parce que il y avait quand même tellement de monde que. Enfin, c'était un flow ininterrompu, quoi, quasiment de... Donc, il y avait un côté à cet homme qui disait ça, un côté achat un peu compulsif, presque.
Non, mais...
De toute façon, tout le monde se jetait sur les livres, quoi, et que, et voilà. Tant mieux, hein, on va pas s'en plaindre, évidemment, mais c'est un peu difficile de faire vraiment la part de... Du public conquis, intéressé, et puis la part de on bouffe du bouquin, quoi.
Alors, c'est un peu... Pour rejoindre un petit peu ce que tu dis, ceux qui ne connaissent pas le Festival Angoulême, je les invite à aller sur YouTube, vous tapez Ouverture Festival Angoulême, et vous voyez un peu l'ambiance que peut y avoir pour les gros chasseurs de dédicaces, qui vont vraiment se ruer sur le truc. Et puis après, vous avez les gens qui, effectivement.
Alors, nous, j'en ai vu deux, hein, mais c'est rare. On n'a pas vu de chasseurs de dédicaces.
Okay.
On a j'en ai repéré deux parce que je les connais, je les avais déjà rencontrés maintes fois. Mais sinon, on avait plutôt quand même des personnes qui. Enfin, en plus, dans la bulle de New York, la bulle Nouveau Monde. C'est vraiment des gens qui viennent découvrir, quoi, beaucoup. Hein, c'est autant la bulle principale. Là, on est plus sur effectivement un public plus traditionnel avec donc ce côté chasseur de dédicaces. Mais là, on sent que c'est vraiment un public, un autre type de public quand même. C'est vraiment des gens qui viennent découvrir des choses. Il y en a tellement de choses qu'on ne connaît pas dans cette bulle d'ailleurs.
C'est peut-être d'autant plus valorisant de voir cet achat compulsif presque, parce que le panier moyen doit être assez limité quand même.
Et effectivement, oui, on peut se poser. Oui.
Ça vaudrait le coup d'essayer de deviner combien dépense en moyenne un festivalier en BD.
Parce que souvent les gens ils prennent les deux, quoi, ils prennent les deux bouquins, donc les deux bouquins déjà ils en ont pour 45 euros, quoi, donc
ça peut dégréver un budget
quand même, ça commence à faire déjà pas mal, quoi, mais en plus je sais pas quelle est l'entrée, combien est l'entrée du
je sais pas, mais c'est cher. On n'a jamais eu à se poser la question, heureusement pour nous,
et en plus les gens qui viennent qui achètent un billet pour rentrer,
je sais pas, je crois que c'est quand même 20 balles, quoi, un truc comme ça, pour peut-être pas pour la journée quand même, mais donc c'est quand même relativement cher, tu vois.
Bah, on peut plus savoir.
Non.
C'est passé, le site, il a fermé.
Espèce d'omerta autour de ce truc-là. Mais non, c'est cher en tout cas. Enfin, moi, je trouve ça cher. Après, la plupart des gens qui viennent, c'est pour acheter de la BD, pour faire de la dédicace, pour découvrir. Mais comme dit Boris, on n'a pas eu de chasseurs de dédicaces. Ça, c'est plutôt agréable, hein, sur le principe. C'est vraiment des gens qui achetaient par goût du truc. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça nous arrivait à plusieurs reprises, des gens qui venaient le matin, ou le vendredi, ou la veille, qui prenaient le bouquin, et qui revenaient quelques heures après. Et du coup, ils nous disaient, j'ai regardé, et j'ai trouvé ça bien graphiquement, donc j'achète le deuxième. Mais je trouve la démarche étonnante. Moi, j'achète un bouquin, j'ai besoin quand même de regarder un minimum dedans pour savoir si ça va être susceptible de me plaire déjà graphiquement. Après, bon, le scénario, l'histoire, c'est encore autre chose. C'est une autre étape. Mais voilà, on a l'impression qu'ils achètent sur la couve, sur peut-être aussi sur, et ça, on l'a vu assez souvent, sur le label Comics Initiative, en fait, qui est un gage de qualité dans la tête des gens, pas mal. On en voit qui arrivent en disant « Qu'est-ce que tu as sorti récemment ?» C'est-à-dire qu'ils vont acheter chez lui les yeux fermés, quoi, sachant que... apparemment il y a une ligne éditoriale, une éthique, un goût apporté au bouquin, un soin apporté au bouquin, pardon, qui fait que il a fédéré autour de lui une espèce de petite tribu de gens qui ne sont pas à vénérer Comics Initiative, quand même pas, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, ne rechigne pas du tout à acheter les bouquins qui sortent, sortent chez lui.
À partir du moment où il y a un gage de qualité et puis que les choses sont bien faites, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Hein. Je pense que c'est dû en fait, au financement participatif aussi, tu vois, il y a ce côté un peu tribu, pour reprendre le mot, et puis ça tient aussi sans doute à la personnalité de Michael, qui est quand même, en tout cas en salon... un sacré commercial, il connaît tout le monde, il se rappelle des gens, en plus il est hypermnésique, ça c'est impressionnant. Donc non, il est fort, voilà. On va arrêter de le saucer non plus, on va pas parler que de lui.
Eh ben, on va quand même en parler un petit peu.
Ah merde.
Paria, c'est deux volumes,
ouais.
On va revenir sur la jeunesse tout à l'heure, mais c'est deux volumes qui ont été financés en financement participatif. Alors j'ai pas les chiffres, je sais pas si tu le connais de vente des deux financements.
Non, j'ai pas de mémoire. C'est pas de la fausse pudeur, hein, c'est que j'ai juste pas de mémoire de ça. Je sais que la deuxième campagne a vachement mieux marché que la première, et ça c'est intéressant aussi. Tu vois, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques lecteurs pendant le festival. Habituellement sur l'édition classique, on est plus habitué à l'édition classique avec Boris. Ça se passe pas forcément comme ça. Ton premier tome, il peut éventuellement avoir des ventes satisfaisantes, et le deuxième, il y a une règle naturelle qui fait que t'en vends moins. Troisième, quatrième, et en règle générale, c'est comme ça que ça se passe pour énormément de séries. Évidemment, les séries qui fonctionnent bien, ça se passe pas comme ça. C'est plutôt la tendance inverse, exponentielle. Et là, on voit bien qu'on a glané plus de lecteurs, plus de gens qui ont été convaincus, plus de gens qui se sont ralliés à la campagne, qui l'ont trouvé le premier en librairie parce qu'ils ont planté la première campagne, et qui finalement viennent à la deuxième parce que très convaincus par le deuxième bouquin. Donc ça, c'est hyper intéressant comme manière d'échanger avec les lecteurs.
Il y a peut-être un effet aussi que... Alors, la série, elle se porte mal en ce moment. Hein. Les éditeurs, ils rechignent à signer des séries. On en est rendu à la mini-série, voire à la plus de série du tout. Et maintenant, on est dans le... On signe du one-shot à gogo, avec plutôt du gros volume de pages, hein, plutôt que de
signer du roman graphique.
Oui,
par exemple,
vu que c'est dans l'air du temps,
on pourrait s'interroger sur le terme roman graphique, mais on va pas ça.
C'est pas le sujet.
Peut-être que, alors, donc nous, Paria, on fait une série, un feuilleton, plus exactement, mais, un feuilleton en 4 livres. Mais peut-être ce qui intéresse les gens, en tout cas, ce qui les surprend, c'est que les livres ne sont pas du tout normés. C'est-à-dire que le premier ne ressemble pas au deuxième, qui ne ressemblera pas au troisième. Il y a pas que de la BD, il y a de la prose, il y a des parties à lire, il y a des parties à ne faire que regarder, qui ne sont que de l'image. Et du coup, on a presque l'impression que chaque livre est une sorte de roman graphique, comme on pourrait... Voilà. Indépendant, ça se suit, mais ça peut aussi se regarder presque de manière indépendante. Même si on regarde le tome 2, on va rien comprendre à l'histoire, mais c'est le tome 2, il ressemble pas au premier, et on n'est pas dans le même format de page, on n'est pas dans le même on est dans quelque chose qui est mouvant tout le temps.
Et il y a plusieurs modes de narration, c'est ça qui est intéressant, on s'ennuie pas. Alors ça se fait de plus en plus d'avoir effectivement des pages de texte. Même si on peut remonter, je sais pas, à Alan Moore ou effectivement des gros pavés.
On n'a rien inventé.
Mais ça se démocratise et ça casse un peu cette narration, ce rythme qui peut des fois s'instaurer dans l'album, mais ça rend le truc encore plus dynamique. Et là, moi je trouve.
Après,
tu sais, Tony, que je jette pas de fleurs, mais
non, ça marche très bien. Faut prendre tout ce qui vient de manière positive, mais. Ouais, bah de toute façon, dès le départ, on s'était dit qu'on se mettait pas spécialement de barrières, si tu veux. On a un tronc principal, à savoir l'histoire, qui est écrite du début à la fin. Et puis après, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'utiliser effectivement, comme tu le disais, plusieurs types de narration, plusieurs manières de raconter des histoires. Donc que ce soit par le truchement des fausses unes de journaux, en créant un organe de presse, qui ensuite nous permet d'introduire un personnage comme le journaliste, en créant aussi des espèces d'albums qui fonctionnent sur le modèle des petits ménestrels qu'on a connus, nous, gamins, qu'on introduit dans l'album. C'est-à-dire que le grand méchant, il en écoute un à un moment donné, et puis après, voilà, on leur dit, il y a mise en abîme, tu vois, à ce moment-là, et on leur dit, tiens, on passe au format carré, et puis là, on fait une petite expérience graphique et auditive. On vous propose d'écouter des musiques que j'ai choisies, moi, particulièrement, et puis de lire, en fait, mais sans dialogue, sans rien, et puis de vous laisser embarquer, et puis que peut-être, avec le décalage de la musique et de l'image, il y a une espèce de manière d'appréhender l'histoire qui soit différente, quoi. Mais ça se fait dans les séries, on le voit sur Netflix, c'est un truc qui est à la mode, encore une fois, comme dit Boris, on n'a rien inventé, c'est juste qu'on adapte des trucs à notre sauce, puis on se fait plaisir, quoi, on se marre. Moi, j'aimerais bien faire des nouvelles aussi, ça va certainement venir dans les prochains tomes, jusqu'à ce qu'on ait une nouvelle idée qui va venir se greffer dessus, quoi. Mais
après, je dirais que le logo, la grande force en fait de Paria, c'est que ça marche. Parce qu'on peut avoir des gens qui vont expérimenter des choses et puis bouf, ça fait comme un gros flan qui est pas bon. Il y a plein de choses dedans qui sont bonnes à la base,
ouais,
mais ça marche pas.
Ouais, ouais,
là, ça marche, ça accompagne, c'est vraiment, on sent qu'il y a une cohérence globale de l'univers qui marche.
Ouais. Bah ça, c'est sûrement dû à Boris et Mika, hein, qui sont un peu garde-fous, parce que c'est vrai que moi, j'aurais peut-être une tendance à partir un peu dans tous les sens et à faire gaffe. Donc, il y a toujours, en fait, à un moment donné, on se dit non, attends, revenons à l'essentiel quand même. Ce qui est important, c'est de raconter une histoire. Il y a un récit. Voilà, si on trouve des trucs transversaux pour améliorer les choses et puis de faire. Mais que ce soit pas de l'ordre du gadget, tu vois, à chaque fois, ça s'inscrit dans la narration. Il y a des guest graphiques. On va pas juste dire il y a un guest graphique qui arrive là comme ça, par inadvertance, tu vois, sur un malentendu.
Il a un sens.
Ouais, il a un sens. Enfin, en tout cas, on essaie d'y mettre un sens.
Bah là, en tout cas, dans la narration,
ouais, bah oui,
c'est prévu.
Ouais.
Est-ce qu'on peut revenir aux origines de Paria ? Moi, je connais déjà l'histoire, mais les auditeurs ne la connaissent pas forcément.
Ouais. J'y vais ?
Oui, parce que c'est quand même une phrase qui est à l'origine.
C'est moi le scénariste. Bah, Paria, c'est du steampunk. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le steampunk, et pour faire très court, on est au 19e, hein. Concrètement. C'est Jules Verne, le papa du steampunk. Et on considère que c'est ce qu'on appelle une uchronie, je crois bien. Enfin, à un moment donné, il y a un truc dans l'histoire que nous, on connaît qu'a twisté, et qui fait qu'on n'est plus tout à fait dans notre univers, on est sur un univers parallèle qu'on connaît, hein, qui nous évoque des choses. Et là, en l'occurrence, le truc principal, c'est que la technologie, l'électricité, en fait, n'a jamais renversé la technologie à la vapeur. Voilà, on en est resté à la vapeur. Donc ça permet un petit peu tous les fantasmes des mécas, des architectures eiffeliennes complètement folles, typées Art Nouveau. Donc c'est ça le steampunk. Et nous, on voulait faire un steampunk un peu plus crasse-pouille que d'habitude, parce qu'en général, c'est assez élégant, tu vois, c'est très enlevé, c'est très grandiloquent. Alors nous, c'est grandiloquent, mais c'est en reconstruction, surtout, en fait. Paris sort d'une guerre civile qui a duré 2 ans, une espèce de commune qui aurait dégénéré, qui bien évidemment a fini en faveur des forces de l'ordre. Et l'histoire démarre là-dessus, sur un Paris en reconstruction. On a une jeune infirmière qui s'appelle Christine, qui évolue parmi les patients, parce que du coup, les forces de l'ordre ont gagné, mais elles ont gagné en utilisant un gaz. Bon, ils n'ont pas vraiment eu le temps de le tester, puis finalement, ça finit par muter, ça crée une maladie qu'on appelle la lèpre bleue. Et il y a des léproseries qui fleurissent un peu partout dans ce Paris la Nouvelle, qui est le fameux Paris 2.0 en 1896. Je rappelle qu'on est en 1896. Enfin, je le rappelle pas, je le dis tout simplement.
La maladie, aucun rapport avec un truc existant.
Non, précise. Absolument aucun. Il y a eu un confinement. Mais c'est vrai que ça a été écrit avant. Non, mais clairement. Et du coup, voilà. Cette jeune fille évolue parmi les patients. Ça pose un peu question à ses collègues et aux médecins, parce que du coup, elle n'est pas trop emmerdée par la contagion, en fait, finalement. Alors que normalement, c'est ultra infectieux. Là-dessus arrive un commando lourdement armé, donc c'est là que le steampunk apparaît véritablement, avec un homme-machine, ce qu'on appelle le singe mécanique après par la suite, et puis des gars qui ont des lance-flammes, qui ont vocation à tuer pas mal de gens sur leur route, et puis enlever la jeune fille. Qui, au moment où elle voit du sang, parce que qui dit intrusion violente dit forcément cadavre et hémoglobine, change du tout au tout. Elle se met à laper en fait le sang comme un petit chat. Donc on a peu de doutes sur ses origines vampiresques, ce qui lui confère une certaine force. Donc elle a un peu de mal à, enfin ils ont un peu de mal à en venir à bout. Ils y arrivent quand même avec grand renfort d'IPN en métal en travers de la tronche. Et elle se réveille nue dans une cage en verre et l'entourée de 5 autres personnes qu'elle connaît de nulle part, hein, qui sont nues aussi. Et ils sont entre les mains d'un mania industriel, un espèce de freak qui se déplace en fauteuil roulant, qui cache son visage derrière un masque avec un respirateur. Donc, c'est vraiment le vieil infirme, quoi. Et lui, il est très grandiloquent dans ses phrases, il est très... il est burlesque, quoi, hein, concrètement, ce personnage-là. Et il leur dit tout simplement, moi j'ai du pognon, donc j'ai du pognon, j'ai du pouvoir, et à partir du moment où j'ai du pouvoir, je fais ce que je veux. Et j'ai envie de me payer une équipe de 5 personnes aux aptitudes extraordinaires, et je vais vous faire faire des saloperies. Parce que moi je peux pas, j'ai pignon sur rue, mais vous, par contre, vous allez le faire pour moi. Voilà, l'histoire commence comme ça, et puis après, tout le reste déroule apparemment bien, parce que, encore une fois, les lecteurs sont là. Bon, c'est peut-être, j'anticipe peut-être une question qui va
venir. Non,
mais non, il y a un bel accueil. Il y a eu un bel accueil du premier, avec une critique qui était assez récurrente, à savoir ça se finit un peu vite, et sur un cliffhanger que les gens n'ont pas aimé. Mais moi, j'aime bien, en fait, parce que ça veut dire que concrètement, ils en veulent un peu plus. Donc, il était important, ce cliffhanger sur le premier, pour appâter, et puis après, confirmer avec le deuxième. Sachant que ces deux tomes-là, ils sont là particulièrement pour poser les bases d'enjeux. On a ouvert plein d'arcs narratifs sur ces deux premiers. Peut-être un peu plus dans le deuxième encore, on assume. C'est toi qui l'avais dit, j'aimais bien cette tournure de phrase. On assume plus notre côté puzzle encore sur le deuxième. Du coup, il y a vraiment des nouveaux personnages qui arrivent, des nouveaux arcs narratifs qui sont ouverts. Et pour l'instant, on n'a rien refermé. Donc là, on va potentiellement rentrer vraiment dans le vif du sujet sur le 3 et sur le 4. Parce que la série est en 4 tomes.
Sur l'équipe, justement, qui s'ouvre plus large.
L'équipe qui s'ouvre plus large.
Les parias. En eux-mêmes, on apprend plusieurs choses.
Oui, c'est ça. Bah, en fait, on connaît leurs aptitudes. Et puis, après, ils sont encore un peu balbutiants. Hein. Quand tu regardes, on a fait deux bouquins. Et pour l'instant, ils n'ont pas foutu grand-chose. Ils ont mis plus de merdier qu'autre chose jusqu'à là. Donc, ils sont encore très maladroits. Et c'est pas l'entente folle, hein, parce que chacun a des caractères qui ne vont pas forcément avec les autres. Il n'y a pas de cohérence pour l'instant dans la constitution de cette équipe. On ne sait même pas pourquoi concrètement il les a réunis. On ne sait pas comment il s'est démerdé pour les recruter. Il n'y a pas grand chose d'expliqué là-dessus.
C'est pas grand chose, non, c'est clair.
Il y a une aura de mystère qui plane autour de ça.
Ils sont contraints par le méchant, là, le vieux. Hein, parce qu'on pourrait dire qu'ils ont des aptitudes particulières. Oui. Ils pourraient
se barrer.
Se servir pour ce... Mais non, ils sont tenus en laisse par un système.
Un petit boîtier dans le cou, un truc assez classique aussi.
Donc, ils sont, voilà, qui leur envoient des décharges électriques dès qu'ils s'écartent de la ligne tracée par le méchant.
Laisse.
Ouais, une sorte de laisse. C'est ça,
donc,
ouais.
Donc, leur préoccupation pour le moment à eux, c'est finalement comment se barrer et comment s'échapper de cette condition-là. Quoi.
Ouais, sachant que pour l'instant, ils sont obligés d'obéir. Comme des greffiers, on utilise le terme à un moment donné. En fait, effectivement, le mot laisse est bien approprié parce que du coup, ils agissent un peu comme des gentils toutous, hein, pour l'instant, qui obéissent. Mais toujours avec en tête, écoute, pour l'instant, on fait ce qu'ils demandent, on verra après. Quoi.
Des petits toutous qui testent en fait les endroits de la clôture où ils vont peut-être pouvoir partir.
Ah, ils testouillent, ouais, de temps en temps, ouais. Après, c'est normal, hein, c'est le jeu aussi, quoi. Mais ouais, là, pour l'instant, ils cherchent un moyen de se barrer, mais pour l'instant, à ce stade de l'histoire, on n'y est pas encore.
Yes. On va parler peut-être un peu dessin, on a parlé beaucoup histoire. Comment ça se passe, la collab graphique avec Tony ?
Écoute, ça se passe bien.
il a tellement hésité que j'ai cru qu'il allait dire autre chose.
Non, ça se passe bien. Après, pour en revenir, je pensais que ta question tout à l'heure faisait référence à l'origine du projet, comment ça s'était monté.
C'était ça, mais comment il y a
passé
10 minutes.
C'est bien ce que je pensais.
Passé à côté,
il a commencé à raconter le début du tome 1, mais en fait, je pense que ça faisait plus référence à d'où c'est né, comment.
La jeunesse du projet.
Voilà. C'est un vieux projet que Tony avait écrit dans sa jeunesse, en 2005 par là.
Ouais, dans ces eaux-là, ouais.
Voilà, bref. Et qu'il avait écrit pour Éric Aumont, et donc à l'époque où il faisait partie de la boîte qui fait bœuf, et du coup l'atelier de BD sur Angers. Et du coup, Tony avait écrit ça pour Eric, à la demande d'Eric peut-être.
Ouais, à la demande d'Eric. Ouais. Ouais.
Et Eric lui avait proposé de le dessiner, Eric qui lui était plutôt scénariste d'ailleurs. Et ils avaient monté ce projet-là, et à une époque qui n'était pas une époque 19e, c'était pas du tout un projet steampunk, c'était un projet plutôt contemporain, voire futuriste, il me semble avoir vu des pages même qui faisaient plutôt penser à quelque chose d'un peu plus futuriste.
Ouais, on serait dans un futur proche, mais oui, c'était un peu ça l'idée, ouais.
Ouais. Et puis bon, le projet s'est pas fait. Il a failli signer chez Dargaud. Finalement, ça s'est pas fait. Et puis du coup, il est pas.
C'est mieux pour toi.
Et, bah, bon, on aurait fait autre chose. Hein, mais voilà. Et puis, bah, de retour dans d'Angoulême, il y a quelques années, moi, je sortais de la série Les Sansons, donc une série sur l'histoire des bourreaux sous l'Ancien Régime, qui m'avait pris beaucoup de temps et m'avait demandé beaucoup d'énergie. Et j'avais envie de faire quelque chose de différent, de plus fun, de plus voilà, de moins contraignant. Et du coup, en discutant avec Tony, on se disait tiens, pourquoi pas reprendre le scénario paria qu'il avait écrit pour Eric, et puis voilà, de changer le contexte. Voilà, le steampunk est arrivé comme ça. On se dit moi voilà, tiens, si on mettait ça dans un univers steampunk fin 19e, voilà, ça s'est construit comme ça. Tony a réécrit son scénario et puis moi j'ai commencé à faire des croquis en m'affranchissant bien sûr du dessin d'Eric, mais en gardant les caractéristiques des personnages qui étaient déjà présentes à l'époque.
Le chara-design, c'est toi qui a imaginé ça quand même?
Oui, ah oui, oui, ouais, ça ressemble pas du tout à ce qu'avait fait Eric, quoi. Mais par contre, c'est, il me semble qu'on était sur les mêmes persos, il n'y avait pas d'autres.
Non, ça n'a pas bougé, ouais. Non, ça pas, ça
même squelette de personnages.
Les prénoms ont bougé, ouais. Mais si tu veux, les caractéristiques sont les mêmes, quoi.
Okay. Après, moi, dans le dessin, moi, j'avais un objectif, c'était de faire quelque chose qui était plus spontané que ce que j'avais fait sur les Sansons. Et voilà, de faire quelque chose qui était moins contraignant sur un dessin très précis, puis un ancrage très très élaboré, très appliqué dessus, de faire un truc un peu plus vivant, de revenir un petit peu à ce que j'avais fait au tout début de ma carrière de dessinateur, qui était un dessin très très lâché et très brouillon même, mais voilà.
On retrouve quelques passages qui font penser à Carton Blême un petit peu.
Enfin, ouais, si ouais, bah même bien avant, je pense qu'on peut remonter même jusqu'à Stabat Mater par exemple, ou même l'épouvantail. Et du coup, voilà. Donc moi là, mon objectif c'était de faire ça, de retrouver de la spontanéité et puis de mettre un peu dans la peau aussi d'un dessinateur de comics qui doit tomber ses pages quand même assez régulièrement parfois même en laissant passer des erreurs. C'est, mais bon, faut livrer, voilà.
Donc, tu t'es imposé un rythme très précis d'une
page.
Oui, et
puis ça c'était ce que je m'étais fait comme idée du projet, ça volait en éclats très rapidement, mais mais bon, c'était mon humeur, c'était ma façon d'aborder le projet en tout cas.
Et c'est pareil, tu disais on change de période pour passer sur du steampunk victorien. C'était ton envie à toi de dessiner du steampunk, ou c'est le cadre de scénario qui s'est...
Alors ça, je ne sais plus trop comment c'est venu, l'idée du steampunk. Mon envie, à moi, non, pas forcément. Moi, je ne suis pas un fan de steampunk, en tout cas pas de alors, je ne sais pas si on peut parler de steampunk classique, mais disons de steampunk, on va dire, dans l'idée qu'on se fait souvent du steampunk, c'est un truc très, très rococo, extrêmement chargé dans les décors, les costumes, avec voilà, un truc très, très foisonnant. Moi, ce n'était pas ça que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire quelque chose de plus cru, de plus radical.
Et un côté plus industriel.
Oui, voilà, oui, exactement, oui. Oui. Et en plus, comme on est dans un univers qui se reconstruit, donc on est dans l'idée de quelque chose qui s'est détruit, qui s'est cassé la figure, et du coup on est vraiment dans une sorte de d'univers brut, en fait, très brut.
Il n'y a pas de fioritures.
Non.
On enlève les fioritures du steampunk habituel.
Exactement, oui.
Et on les garde là.
Ok.
Je vous propose qu'on refasse une petite pause musicale. On l'a évoqué tout à l'heure, parce que c'est dans l'ouverture du tome 2. On va se faire un petit creep de Radiohead. Voilà. Puis on
Avec
se retrouve
plaisir.
Tout de suite après sur le 105 de Radio G.
Anywhere before, couldn't look. just like an angel. Skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. Vous venez d'entendre Creep de Radiohead, une chanson dont une citation figure au début du tome 2 de Paria. Tentez, j'ai pas ouvert ton micro.
Ah, pardon, alors, je vais recommencer. Ouais, il y a toujours des petites citations au début du chapitre, et là, c'est toujours c'est une mise en contexte, hein, et j'aime bien l'idée que parfois ça résonne. Alors, mais j'ai fait n'importe quoi au niveau des citations, hein, concrètement. Radiohead, c'est à peu près cohérent. J'ai cité des gens de lettres, hein, mais j'ai aussi cité Gandalf, qui est un personnage de fiction absolu, et puis jusqu'à Pierre Desproges. Donc, voilà.
Ouais, mais des fois, ça te conditionne à la façon dont
tu. Ouais, c'était un peu l'idée, ouais. Donc, à la manière de le lire, et du coup, là, en l'occurrence, ce passage de I'm a weirdo, I'm a freak, j'ai rien à foutre là, je sais pas ce que je fais là. Ça ouvre l'enlèvement de Wilbur, qui est un des personnages principaux des parias.
C'est un personnage un peu à part, même avec les autres parias, en fait.
Il est moi c'est mon préféré, en fait. C'est un géant, il est teubé,
c'est
quoi.
Un enfant,
il est complètement de nœud. Ouais, c'est un je sais pas si les auditeurs ou même si les gens dans le studio ont vu Mad Max 3, au-delà du dôme du tonnerre. À un moment donné, il y a un affrontement entre Mad Max et un nain qui est posé sur un géant et qui s'avère finalement être un enfant trisomique. Du coup, c'est ça, en fait, c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'il a un corps d'adulte, il est massif, c'est de la force brute. mais finalement c'est un gamin de 8 ans dans sa tête, quoi. Et il a du mal à aligner 3 phrases, c'est un peu le Hulk des débuts aussi, hein, tu sais, quand il a aligné 3-4 mots où il était vraiment, fallait que tout se mette en place. Donc là Wilbur c'est un peu ça, quoi. C'est à la croisée des chemins de tout ça, et c'est vraiment un personnage que moi j'affectionne, parce que du coup évidemment il va avoir son importance dans l'histoire comme tous les autres. Mais celui-ci, je ne sais pas, je vais pas aller jusqu'à dire que je me retrouve dans celui-là quand même, faut pas déconner, mais je l'aime bien.
J'allais dire qu'il avait perdu en intellect, qu'il avait gagné en force, je vais pas le faire.
Non, c'est mieux.
Donc, deux albums qui ont été faits en financement participatif. Je pense que les 3-4 seront faits en financement participatif aussi.
Ouais, tout juste.
On a dit que c'est le deuxième financement avait mieux marché. Est-ce qu'au niveau stade, vous savez ce que ça donne en nouveaux lecteurs par rapport au précédent ?
Pff, ça, les stats, c'est pas notre truc.
Alors, l'éditeur qui est un fan des stats, lui, justement, ah oui, lui, par lui contre, doit savoir ça. Mais nous. C'est difficile. Le premier, en termes de récolte d'argent, je crois qu'on était autour de 18 000 par là.
Ouais, il me semble, ouais, à peu près.
Et le deuxième, on était plus autour de 26, 27. Donc il y a eu quand même un bond assez conséquent. Donc forcément, des nouveaux lecteurs.
Et c'est surtout que sur le deuxième, on a eu cette espèce d'engouement un peu fou qu'on a sur certaines campagnes. Moi, que je trouve hyper drôle, c'est qu'il a été financé en quelques heures. Sur le premier, il fallait convaincre, oui. En fait. On arrivait de nulle part. Les gens, steampunk, nous avaient prévenu qu'il risquait d'y avoir de la défiance sur un style qui n'est pas forcément facile à appréhender par tout le monde. Et sur le deuxième, on a bien vu le premier soir que ça décollait à une vitesse incroyable. Donc on savait qu'on avait chopé du monde, que ce premier tome avait plu.
Mais je crois que ce qui a plu, c'est au-delà du steam, de l'appétence pour, oui, c'est pour le steampunk. C'est l'objet qui a intéressé les gens, justement, le côté mélange de BD, de choses écrites, et du coup une bande dessinée qui sortait peut-être un peu des carcans un peu habituels, en tout cas de, alors qu'on est plutôt dans un format comics. On est chez un éditeur qui s'appelle Comics Initiative, donc qui on est quand même très référencé à la bande dessinée américaine. Mais voilà, donc je pense que c'est peut-être ça aussi.
Ouais, peut-être. Ouais. Ça... Bah, l'objet a plu en tout cas. Et puis effectivement, comme tu disais, les unes de journaux, moi je croyais naïvement, enfin je croyais rien du tout. En fait, je me suis dit, je me fais chier à le faire, ça se trouve personne ne va le lire. Et puis en fait, si, on a eu plein de retours en disant, putain, c'est vachement bien, les journaux servent à quelque chose, c'est pas inutile, c'est pas juste un gadget, ça participe à l'histoire. Encore une fois, ça introduit. Hein. Un personnage dans le second tome, et puis sans doute qu'ils auront un autre usage après par la suite, mais ouais, non, j'étais content de ça, enfin tu vois, j'étais content. Et puis après, à partir du moment où on a vu qu'ils étaient friands, on s'est dit, allez, bon, à tout va, on continue, on fait des faux petits ménestrels dans le deuxième, et puis j'en sais rien, je sais pas ce qu'on va trouver dans le troisième, mais on trouvera d'autres manières de raconter des histoires,
l'occasion de mettre des petites vannes aussi.
Ouais, bien sûr, ouais, évidemment. Toujours, bah oui. Après, même si c'est un peu plus sérieux que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, parce que c'est vrai que j'ai pas mal navigué dans le domaine de l'humour, enfin en tout cas essayé. C'est vrai que celle-ci, elle est quand même relativement sérieuse, mais ça m'emmerde en fait, sérieux tout le temps, c'est chiant. Donc des petites vannes, mais il y a de l'humour, mais il est quand même plus dosé qu'à l'accoutumée, quoi. Mais
après, il y a des vannes, des clins d'œil, il y a des choses, bah, ouais, que ouais, je les voilà. Repère parce que...
Il y a peut-être un peu de private joke aussi, j'en sais rien, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a des références... au cinéma de Peter Jackson dans ses débuts, il y a des dialogues débiles, il y a même Boris des fois qui participe au truc en disant ça, ce serait marrant si ce personnage là disait ça, tu vois, donc il y a un ping-pong aussi à ce niveau-là, des choses auxquelles moi j'ai pas forcément pensé, et on essaie d'exploiter un petit peu leur personnalité aux uns et aux autres, et oui évidemment que qu'il y a de l'humour, ce serait terriblement chiant sans humour. Je pense.
Alors, on va pas tarder à arriver bientôt vers la fin, parce que ça passe hyper vite.
Bah ouais.
Le tome 3, ça sort quand ? Je vais faire mon fan.
Alors, la campagne n'est pas lancée, on va la lancer sans doute au printemps, début avril ou courant avril, par là. Alors, il sortira pas en 2023, il sortira donc en 2024. Après quand ? Ça, on ne sait pas. Il sera plus, l'album sera plus conséquent que le tome 2, qui était déjà un peu plus conséquent que le tome 1. Là, on va être sur une pagination encore plus importante. Alors,
on va finir sur un dictionnaire, pas faire le double,
mais on va être sur un plus gros volume. Donc, du coup, on se dirige plutôt vers 2024, deuxième semestre, je pense.
Je crois qu'il y a le nombre de pages, 2000 pages. Je me suis dit, ouais, ça commence à faire beaucoup. Quoi. Mais 2024, oui, c'est bien. 2024, c'est bien.
C'était 10 pages de scénario, tu fais ah, 2000 pages. Il va falloir pousser. Ceux qui ont été vous voir à Angoulême ont eu la chance d'avoir un petit fascicule qui était fait par Comics Initiative.
Ouais.
Avec 3 pages.
Ouais,
du,
bah oui.
Tome 3.
On n'a pas tant avancé que ça. Mais puis après, du coup, c'était. Ouais, c'était pour appâter un peu le chaland aussi, de dire voilà, il y a un petit teasing de ce qui se passe au début du 3. Il y a toujours les fameuses.
Les petites citations.
Les petites citations, effectivement, qui sont en cohérence avec. Avec le titre du 3. Après, il y avait aussi, je te dis, les archives de Foxboy, et puis place aussi aux jeunes, avec du coup le premier chapitre de 16 pages de la future série Comics Initiative, écrite et dessinée par Dominique Henbeau, qui s'appellera Stan, Martha et les super, une espèce de fable sociologique au pays des super-héros. Voilà, dans la grande tradition Henbeautesque. Mais après, voilà, si jamais tu veux l'inviter, il est en juin également, il en parlera bien évidemment. Mieux que nous.
Il faudra que je l'invite quand ça sort.
Bien sûr, ouais. Ah bah oui, c'est sûr. Il sera ravi.
Ce sera avec un grand plaisir.
Bien sûr.
Tu viendras avec ?
Avec plaisir.
Je sais qu'il est très très bavard. Dominique, si tu nous entends. Est-ce que vous aviez un message aux gens qui ont déjà lu ou à ceux qui ne l'ont pas lu pour leur dire continuez à nous suivre et ça va être encore mieux ?
Ben, ça va être encore mieux. Enfin, alors c'est toujours un peu risqué de dire ça, évidemment, mais vu ce qu'on prévoit, vu ce qui va se passer, vu les idées qui ont été évoquées jusqu'à maintenant et qui vont émerger sans doute dans l'avenir, il n'y a pas de raison que. Voilà, on va continuer sur l'énergie qu'on y a mis pour l'instant et puis en gardant cette ligne directrice de on va certainement pas s'empêcher d'avoir des idées, même si elles paraissent un peu folles, allons-y. Non, c'est un laboratoire, enfin, on s'est toujours dit qu'on était OK là-dessus.
C'est sûr que le tome 3, on a déjà plusieurs petites idées, on pousse le bouchon encore, quoi. Ça, c'est
ça. Donc, on y va crescendo, en fait. Et du coup, il y aura toujours des guests hein, aussi, tu vois, c'est parce qu'il y a un truc qui a été apprécié par la plupart des gens, par la plupart des lecteurs. Il y aura des guests sur les couvertures parce qu'il y aura du campagne de financement oblige la couverture collector et de la couverture régulière et puis des gens à l'intérieur dont on a déjà commencé à évoquer des noms donc voilà.
Eh bien merci.
Ah, avec grand plaisir, dis donc. That's all,
folks. Oui, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. Le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. C'était Tony Emeriot et Boris Beuzelin pour la sortie de Paris. Sortie, c'était l'année dernière.
Ouais, mais c'est récent quand même.
Ça reste quand même.
Ah, vous pouvez encore l'acheter, hein, c'est ça ce qu'il faut comprendre.
C'est ce qu'il faut retenir.
Voilà.
Et puis on se reverra pour le tome 3 en 2024, du coup.
Ouais.
Eh bien écoutez, c'était La Case de Seb. Vous pourrez retourner le podcast sur le 101.5 de Radio G. Non. Sur le www.radio-g.fr dès la fin de cette mission et quand vous voudrez, si vous l'écoutez en podcast. Et puis en attendant, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je ne souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi!